Deuxième temps de notre semaine sur l'histoire des langues dans la Fabrique de l'Histoire. Hier, nous avons eu le plaisir de recevoir l'écrivain Vassilis Alexakis, auteur de La langue maternelle, des langues étrangères, du premier mot et plus récemment de l'enfant grec, dont toute l'œuvre est à cheval sur deux langues, le français et le grec, voire trois, avec le sango, une langue africaine qu'il a apprise il y a quelque temps. Il avait avec lui son invité surprise, l'écrivain Paul Fournel, membre de l'Oulipo, qui lui aussi travaille à sa façon la langue. Demain, nous nous interrogerons sur les traductions du Coran depuis au moins le XVIIIe siècle. Jeudi, nous nous demanderons comment naissent le langage d'abord et les langues ensuite. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons partir pour Tunis, là où a été fondé en 1926 l'IBLA, l'Institut des Belles-Lettres Arabes, une institution culturelle dirigée depuis les origines par des pères blancs et qui a été tout au long de ces années un foyer intellectuel de la Tunisie coloniale et de la Tunisie indépendante, un lieu de passage entre les cultures et les langues, tant les livres de sa bibliothèque, brûlés en partie récemment et en cours de reconstitution, ont contribué à faire le lien entre culture chrétienne et culture musulmane. Un documentaire jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, signé Jean-Michel Djian et Charlotte Roux, à écouter donc et également à télécharger si vous ne pouvez pas l'écouter jusqu'au bout, jusqu'à 10h.
Belles lettres de Tunisie, une histoire de bibliothèque pas comme les autres.
Devant l'entrée, on peut lire Institut des Belles Lettres Arabes. Suite à l'incendie du mois de janvier 2010, nous regrettons que la bibliothèque reste fermée pendant les travaux de restauration et de récupération de la documentation. Ce travail avance bien. Et nous espérons réouvrir au cours de 2012.
Ça, c'était fermé. Là. Il y avait la chapelle de l'autre côté.
La chapelle était là, donc.
Ici, uniquement des livres.
Uniquement des livres.
Un gros, gros, gros stock de livres, hein, puisque c'est surtout ici que ça...
Vous étiez où à ce moment-là ?
Moi, j'étais au-dessus.
D'accord. Hein,
sur le patio. Donc, dès que j'ai entendu l'explosion...
Qu'est-ce que vous avez entendu exactement, Pierre Fontaine ?
Comme ça, boum, avec chut. Alors j'ai voulu prendre l'escalier métallique, la fumée m'en empêchait déjà, donc j'ai repris le grand escalier en marbre pour venir ici, mais on n'a rien pu faire parce que c'est surtout la chaleur. Alors les pompiers sont arrivés très vite, un quart d'heure, et ce sont les livres des étagères qui ont craqué, qui ont recouvert le corps de Giambattista, qui en fait l'ont protégé. Donc il n'était pas carbonisé, quoi, comme on aurait pu le craindre à cause de la chaleur.
Et le père Battista était donc un père blanc.
Oui.
On peut dire qui était le père Battista ?
C'était un confrère qui avait une formation de bibliothécaire. C'était le tout premier qu'on a eu à l'IBLA, qui a été quelques années bibliothécaire à Rome, à notre institut. Puis avant, il était missionnaire au Mali. Il avait 54 ans, ce qui est très triste pour un jeune confrère.
Père Léon,
oui.
Vous étiez là pendant l'incendie ?
Non. L'incendie a eu lieu le 5 janvier 2010 et j'étais encore à Jérusalem.
Est-ce que les Tunisiens savent la vérité sur sa mort ?
À mon avis, non. Ils savent tout simplement ce qui a été dit dans les journaux de la place. Donc, c'était que le père Jean-Baptiste s'est suicidé. Et donc, c'est ce que les Tunisiens savent pour le moment. Et donc, et nous, les pères blancs, on n'aimerait pas vraiment envenimer la situation. Ce n'est pas la peine, c'est passé. Je pense que voilà, c'est une affaire plus ou moins passée, quoi.
C'est là, au 12 de la rue Jama Halawa, à la lisière de la Médina de Tunis, que renaît de ses cendres une vieille bâtisse du XVIIIe siècle, nichée entre l'ancienne demeure d'Abi Bourguiba et celle de l'ancienne conservatrice de la Bibliothèque nationale. Ici, la communauté des Pères Blancs, installée en Tunisie depuis 1926, tente de sauver ce qu'il reste d'un foyer intellectuel sans équivalent au Maghreb et qui, grâce à sa bibliothèque initiale de 34 000 ouvrages, aura largement contribué à former les élites du pays. Comme pour la Tunisie qui l'a façonné, une nouvelle page de la longue histoire de l'Institut des Belles-Lettres Arabes est en train de s'écrire. En pleine tourmente post-révolutionnaire, et alors que l'un de ses éminents directeurs, le père Fontaine, vient tout juste de prendre sa retraite après 37 ans de règne. Quelle est l'origine du nom Institut des Belles-Lettres Arabes ?
Alors ça, c'est un peu de la rigolade. C'est les vieilles appellations du XVIIe siècle. Aujourd'hui, on dirait Institut des sciences humaines dans le monde arabe. C'est ce que ça veut dire. Hein. D'ailleurs, le mot arabe, el-adab, c'est très clair. Ça ne fait pas allusion à ce qu'on pourrait dire les belles-lettres. Personne ne comprend. D'ailleurs, on recevait parfois des lettres Institut des Belles-Arabes, par exemple. Quand ils ont commencé à traduire en arabe les factures d'électricité et de gaz, Institut des Hommes Blancs, parce que pour eux, ça ne veut rien dire. Les pères blancs, les blas, ça ne veut rien dire à personne.
D'ailleurs, on n'appelle plus jamais l'Institut des Belles-Lettres Arabes, on l'appelle l'IBLA.
Voilà, c'est devenu un sigle. Et pour les Tunisiens, ça a toujours été un mystère, ce que nous étions. Et je pense qu'aujourd'hui encore, beaucoup se demandent à quoi on joue, qu'est-ce qu'on fait ici. Essayons de nous mettre quand même à la place des Tunisiens. Je viens de la région de Lille. Supposez qu'à Lille, il y ait 6 imams musulmans, tous spécialistes de la langue française et de la religion catholique, qui créent un institut, avec une revue sur les problèmes de l'Église catholique en France et une bibliothèque spécialisée sur ces problèmes. Je pense que non seulement le préfet, mais l'évêque, ils vont regarder d'un œil tort ce que... Mais c'est ce qu'on est.
Exactement.
On est des prêtres étrangers, spécialistes et de l'arabe et de la religion musulmane, et on est là.
Alors, ce qui fait la particularité de cette institution, c'est la richesse de vos archives, la richesse de vos ouvrages, de vos revues. Est-ce que vous avez quelques références à nous donner ?
L'ouvrage le plus ancien que nous aurions, c'est la première traduction du Coran en latin de Marrakchi, qui veut dire donc le Marocain, l'habitant de Marrakech. Bon, ça, c'est quand même un ouvrage précieux.
16e siècle.
C'est ça, 16e siècle, oui. Et puis, du 17e, on a des textes originaux de voyageurs de l'époque, des premières grammaires arabes publiées en français. Et c'était de la lithographie. À l'époque, ce n'était pas encore imprimé selon les procédés actuels. Et c'est des ouvrages qui me font toujours mon admiration. Si je pense à cette traduction du Coran du 16e siècle, le papier est impeccable. Alors, c'est relié, bien sûr, en peau de mouton. C'est un bel ouvrage, quoi.
Ça nous amène à l'incendie. Et cet incendie... Ces documents dont vous parlez y ont échappé.
Alors, il y a des choses très bizarres dans cet incendie. Bon, nous savons que c'est notre bibliothécaire qui, dans une crise de schizophrénie, l'a déclenché. Mais ceci dit, quelques semaines avant qu'ils mettent le feu à la bibliothèque, tout le fond arabe classique avait été déplacé dans une petite salle au bout du couloir à l'étage de l'autre côté, là, sur la rue de la Ruche, donc complètement protégé. En outre, tous ces vieux ouvrages, presque tous, on les a retrouvés dans son bureau. Et en ouvrant sa fameuse armoire, j'ai trouvé le Coran et tous ces vieux ouvrages qui étaient là-dedans. Alors c'est le mystère de l'être humain. On ne saura jamais ce qui s'est passé dans son crâne à ce moment-là. Et voilà.
On imagine que c'était un choc pour les Tunisiens quand on voit la presse qui a été...
C'est évident, pour tout le monde, pour le quartier, etc. Enfin, alors, vous vous doutez bien que tout de suite, les autorités policières ont pensé aux islamistes. Forcément, c'était l'époque, etc. Et, alors, ils nous ont, entre guillemets, enfermés pendant 36 heures ici, avec des inspecteurs et des policiers qui gardaient toutes les issues, pour surveiller tous les lieux, pour faire leur enquête. Et au bout de 36 heures, ils ont conclu qu'il n'y avait rien.
Qu'est-ce que vous faites, Père André ?
Eh bien, on dégage le repos pour la deuxième tranche des travaux.
Donc là, vous êtes en train de numéroter tous les rayonnages.
Oui, je suis retrouvé après, parce que ce sont les périodiques.
Prenons par hasard une revue pour savoir à propos de qu'est-ce qu'il y a dans cette bibliothèque. Là, je vois Terre de Tunisie, 1956-1963.
Oui, c'est une vieille revue de Tunisie qui a paru juste au moment de l'indépendance, là. Alors, terre de Tunisie indépendante, vous voyez, c'est lié à l'indépendance. Je pense que c'est un peu l'actualité, et puis des articles sur l'agriculture, enfin dans les domaines, je crois, de développement du pays. C'était la grosse question
à l'époque.
Alors ça, c'est 80... 96 encore. Ah oui, 96.
Alors, Père Jeune, ça s'installe, on pense à...
Oui, actuellement, moi, je suis en train de préparer les étagères qui sont vidées. Ouais. Je les nettoie et je vais les fixer pour recevoir les livres.
Pendant que le Père André installe les périodiques, c'est ça?
Oui, parce que c'est lui qui est responsable pour la bibliothèque, donc il va savoir où mettre chaque chose pour le retrouver après. Moi, je suis plutôt, pour l'instant, dans les boulons et les écrous. Et tout ça là. Donc, je crois que parfois, les Pères Blancs, les prêtres, on a plutôt des tournevis et des clés dans nos mains plutôt que des choses liturgiques.
Vous aurez tout fait, Père John, militaire, travailleur manuel, responsable.
J'étais pas un travailleur manuel, mais un peu bricolage dans ma vie. Et,
vous êtes de quelle nationalité, Père?
Je suis britannique, né en Angleterre, et donc puisque mon père était militaire, j'ai vécu beaucoup à l'étranger, en Afrique quand j'étais petit, au Soudan et Somaliland, et puis. J'avais 35 ans quand j'ai ce qu'on appelle la vocation. Et donc, j'ai fait 8 ans de formation Père Blanc, philosophie, théologie. Tout de suite après, j'ai fait 3 ans de islamologie et l'arabe à Rome. Et puis, j'étais nommé ici au Maghreb, d'abord en Algérie et maintenant en Tunisie.
Qui a financé cette restauration?
C'est le gouvernement tunisien.
Dans sa totalité?
Oui, pour la restauration. Hein. Ouais, alors, ouais. Le réaménagement intérieur, c'est à notre charge. Hein.
Père Fontaine, vous avez été surpris par la mobilisation des habitants, des Tunisiens eux-mêmes, quand il y a eu cet incendie?
Sincèrement, d'abord, les voisins, la coutume en Tunisie, quand il y a un mort dans une maison, on ne fait pas la cuisine pendant 3 jours, et c'est les voisins qui nourrissent. Et bien, c'est ce qui est arrivé, les voisins sont venus avec des repas. Ensuite, il y a une petite dame qui habite juste à côté, et qui est venue nous voir en disant... Alors, je vais faire passer un fil, et comme ça, vous aurez au moins de l'électricité. Bon, ça a été gentil. Et alors après, il y a quand même, je ne sais pas combien, j'ai 200 Tunisiens qui sont venus. Alors, il a fallu nettoyer, c'est-à-dire, il y avait peut-être, je ne sais pas combien de tonnes de bouillie, parce que le drame, c'est l'eau, c'est pas tellement le feu. S'il n'y avait eu que le feu, bon, on s'en serait sorti assez bien. Mais là, c'est l'eau qui a tout fichu par terre. Alors, trouver des volontaires, on a fait des appels dans les journaux, à la radio, alors avec sèche-cheveux, les dames venaient avec leurs sèche-cheveux, il en faut 2 parce qu'au bout de 10 minutes, ils chauffent. Donc, et puis, on avait du papier spécial pour mettre entre les feuilles des bouquins, de sorte que ça puisse sécher. On a acheté une étuve aussi, un truc pour réchauffer les plats dans les restaurants. Hein, comme ça, on met des bouquins, et puis au bout d'une heure et demie, il y a 20 bouquins qui sont secs. Bon, tout de suite, on s'est dit, il y a 17 000 livres qui ont brûlé. Assez vite, on a pu mettre la liste sur Internet. Donc, un certain nombre de gens de l'extérieur nous ont aidés pour ça. Ça a été parce que du temps de Ben Ali, il était impossible de recevoir des livres normalement. Donc, j'ai demandé à l'ambassade de France si la valise diplomatique ne pouvait pas le faire. Ils ont dit oui, mais tout au même endroit, au même moment. Donc, il fallait quelqu'un pour regrouper. Ça a été l'Institut du monde arabe. Bon, les livres les plus anciens, on trouvera très facilement en Europe ou même ici à Tunis. Pour la restauration, la Bibliothèque nationale à Tunis a restauré ceux du 17e, 18e, les archives 19e. Et pour les livres récents, on a fait un petit atelier qu'on verra tout à l'heure, hein, qui en a formé un jeune, qui relit toute la journée depuis 2 ans, parce que beaucoup de livres ont été brûlés. C'est le dos qui a brûlé. Et donc la couture de reliure a brûlé, ça, il faut les refaire.
C'est la première fois depuis 1937 que l'IBLA a fermé aussi longtemps.
Ah oui, certainement. Mais bon, nous aimerions forcer un peu la main de tout le monde, ouvrir une toute petite salle en novembre, même avec 5 chaises, pour dire on a ouvert. Et puis le bâtiment, qu'il soit terminé ou pas, après tout, parce qu'il y aura forcément du retard, on le sait bien. Donc ouvrir pour le principe.
Monsieur Charfi, vous êtes professeur de civilisation arabo-musulmane. Dans quelles conditions vous avez connu l'IBLA, l'Institut des Belles-Lettres Arabes ?
Je l'ai connu tout d'abord comme étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines et à l'école normale supérieure. Et je fréquentais la bibliothèque de l'IBLA, qui était incontournable pour les jeunes chercheurs que nous étions. Et c'était au début, tout juste au début des années 60. Et j'ai continué à fréquenter la bibliothèque par la suite, jusqu'à ce que je fasse partie de l'équipe de la revue IBLA. Donc ça fait presque 40 ans. Et là, j'ai connu le père de Mersman, qui est le fondateur de la maison. Un personnage haut en couleur, en vérité. Quelqu'un qui parlait l'arabe dialectal tunisien à la perfection, qui avait de bonnes relations avec les cheikhs, avec les ulamas traditionnels et avec toute l'élite intellectuelle de Tunisie. Je pense qu'il a pris fait et cause pour la cause nationale tunisienne, du temps où c'était difficile. Vous savez qu'au départ, le fondateur de la mission des Pères Blancs, les missionnaires d'Afrique, ils étaient obligés d'ailleurs de revêtir une tenue traditionnelle locale. Donc on les appelait les Pères Blancs parce qu'ils portaient des burnous blancs et la chéchia, le bonnet purement tunisien.
Donc ce n'est pas leur vrai nom.
Non.
Ce sont les missionnaires
d'Afrique. C'est la société des missionnaires d'Afrique. Mais le père de Mersman, bien qu'étant missionnaire, il n'a jamais renié sa mission, il était conscient qu'on ne pouvait pas évangéliser, entre guillemets, les Tunisiens. Il fallait obtenir d'autres résultats par le contact direct, par le respect de l'autre. Alors s'il y avait des Tunisiens qui voulaient bien embrasser le christianisme, ils étaient certainement les bienvenus, mais sa mission n'était pas de convertir.
Quelles étaient les relations entre les intellectuels, disons, formés à l'IBLA et le protectorat français ?
C'est trop dire que l'IBLA a formé les intellectuels. Elle a participé à la formation, parce que ce n'était pas une instance d'enseignement ou d'éducation, non.
C'était
un foyer intellectuel, surtout par sa bibliothèque, en fait. Parce que c'était une bibliothèque qui était très bien tenue, avec un fichier d'auteurs et thématiques qui n'avaient pas d'équivalent à l'époque en Tunisie. Et la bibliothèque s'intéressait surtout à la Tunisie sous tous ses aspects. Historique, social, économique, culturel, etc. C'est pour cela que l'IBLA fait partie, en quelque sorte, du paysage intellectuel tunisien.
Alors, sur la terrasse, on a un très beau spectacle, donc je vous invite à venir avec moi et gravir les escaliers. On n'est pas encore à la bonne heure, c'est en début d'après-midi. En face, malgré la brume, on devine le chenal qui va jusqu'à la Goulette. On voit les centrales électriques de la Goulette. Donc il y a le lac, et quand il fait clair, on voit les collines du Cap Bon, qui sont donc de l'autre côté du golfe de Tunis. Au bout du Cap Bon, il y a 120 km pour aller en Sicile. C'est un grand passage d'oiseaux migrateurs. Il y a donc des dizaines de millions d'oiseaux qui, venant d'Europe, ils arrivent ici. Juste en dessous, le dernier caravansérail, pas en très bon état, qui existe dans le coin, à la place, s'appelait la place aux moutons. Et juste un peu plus loin, où on voit le grand bâtiment qui est l'école normale supérieure, c'était la place aux chevaux. Donc c'est là que se faisait le commerce des moutons et des chevaux. Et alors on est juste à côté de la maison de Bourguiba. Hein, Bourguiba habitait là de 1938 à 1954. Et les Pères Blancs ont toujours des très très bonnes relations avec lui. Le père de Mersman, qui a fondé la maison,
était son ami et régulièrement il allait discuter chez lui. Et quand les Français à deux reprises ont arrêté Bourguiba, sa femme et son fils sont venus chez nous provisoirement pour pouvoir téléphoner aux autres nationalistes et puis avant de trouver un endroit où on puisse les recevoir correctement. Et le père de Mercemin a dit, le jour où Bourguiba s'en va, je m'en vais. Ils étaient contemporains, ils avaient pratiquement le même âge, ils avaient la même formation. Comme ils étaient voisins, ils se sont beaucoup appréciés, parce que le père de Mercemin, dès qu'il a senti que la Tunisie devait devenir indépendante, mais ça c'est très tôt, il a écrit dans la revue Ibla des articles en faveur de cette indépendance. Et ça a été très mal vu, bien sûr, non seulement de la résidence française, mais même du clergé. L'Ibla, en tant que tel, a résisté au gouvernement français, donc aux résidents. Il a résisté aussi à l'emprise de l'Église, qui était une Église colonialiste. Je reviens au problème essentiel de la raison de fondation de l'Ibla, c'est que c'était la connaissance de la langue arabe. Les Pères Blancs ont fondé cet institut en 1926 pour apprendre l'arabe, et ce qui nous permettait d'être sensibles au mouvement nationaliste, c'est qu'on lisait la presse en arabe. On pouvait écouter les discours en arabe. Par exemple, quand l'Église a voulu faire ce fameux congrès eucharistique de 1930, qui restait en travers de la gorge de Bourguiba, les Pères Blancs ont dit non, ne le faites pas, parce que ceci, cela, 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 en s'appuyant sur la presse en arabe. Et si toute l'Église a disparu au 7e siècle, quand les Arabes sont arrivés, et au XXe siècle, quand la Tunisie est devenue indépendante, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas l'arabe. Ils étaient pas, ils connaissaient pas la culture, ils vivaient en étranger. Si l'Église a disparu au 7e siècle, c'est parce qu'ils parlaient grec et latin, et ils ne parlaient ni berbère, ni punique. Et saint Augustin, déjà, dans ses sermons, pleurnichait. Je trouve personne pour avoir un prêtre qui parle punique. On est au 5e siècle, après 400 ans de christianisme. Et après, avec la colonisation, c'était pareil. Malheureusement, le clergé ici ne parlait pas, qu'il soit italien ou français, ne parlait pas l'arabe. Sauf les Maltais, parce que le Maltais, c'est un dialecte arabe, donc pour eux, le problème était résolu.
Père Fontaine, dans quelles conditions vous êtes arrivé à Tunis ?
Je suis venu en Tunisie commencer mes études de théologie à Tibar, qui était un séminaire à 120 km de Tunis. Je suis arrivé le 2 septembre 1956. Ah bah tiens, voilà l'appel à la prière. Et alors, ça me rappelle qu'à chaque fois que je célèbre la messe et que c'est l'appel à la prière, quelle que soit la paroisse, j'arrête la messe et je traduis en anglais, en italien et en français l'appel à la prière pour que les fidèles qui viennent dans l'église ou la chapelle se rendent compte qu'on a le même Dieu, on ne prie pas dans la même langue ni dans le même endroit, mais qu'il n'y a aucune différence entre la foi que nous avons et celle que les Tunisiens pieux peuvent manifester. Arrivé le 2 septembre 56 à 20h, le 3 septembre 56 à 8h du matin, j'ai appris ma première phrase d'arabe, Tayyem lir, halaken el kes es rir. Le thé est bon, mais le verre est trop petit.
Comment on manie l'apprentissage de l'arabe en même temps que l'apprentissage de la théologie ?
Alors, je peux vous faire une confidence qui est un peu vulgaire, c'est que j'apprenais aux toilettes. Il y en a qui font des mots croisés ou qui lisent des romans policiers. Moi, j'ai appris l'arabe là.
Vous connaissiez, quand vous êtes arrivé en 1956, la réputation qu'avait déjà l'Ibla ?
Très peu. Je suis venu, c'est un concours de circonstances très étonnant. J'ai commencé par aller en Algérie, j'avais 18 ans. Et le hasard a voulu que je rencontre le père Jean Fissé, qui était responsable des Pères Blancs du Sahara. Et ce type m'a complètement conquis. Il a tenu un discours en 1955, sur l'indépendance de l'Algérie, donc 7 ans à l'avance. Il a tenu un discours de disciple de Jésus, habité par Dieu, et je me suis dit, moi voilà, ça c'est ça que je veux faire, je veux être missionnaire au milieu des musulmans.
David, vous avez 26 ans, vous êtes donc ougandais.
Oui, c'est ougandais.
À quel âge exactement avez-vous connu l'existence de ces Pères Blancs, de ces missionnaires d'Afrique.
Voilà.
Et pourquoi vous êtes engagé? À quel moment vous avez eu cette vocation?
J'ai connu les Pères Blancs, les missionnaires d'Afrique, alors quand j'avais 20 ans. J'étais à l'école secondaire. Là, j'ai rencontré des séminaristes, Pères Blancs, et j'étais attiré par la vie en communauté. Bon, disons, je ne suis plus aspirant. Il y a un an pour les aspirants, et après cela, je suis entré dans la formation. Alors, ça dure 9 ou 10 ans. Si on fait la théologie en Afrique du Sud, alors à ce moment-là, ça va durer 10 ans, tout y compris, quoi.
Comment vivez-vous?
Pour nous, nous ne faisons pas de vœux. Parce que, bon, nous ne sommes pas religieux. Nous sommes une société. Une chose qui est spécifique chez les Pères Blancs, ça c'est la vie communautaire. Et nous faisons la prière ensemble. Alors, disons, et la messe, hein, et puis et les bréviaires, les repas, nous prenons ensemble. Et, par exemple, vous êtes ici à Libla, parce que c'est une bibliothèque, peut-être c'est une des choses que nous pouvons faire. Hein. En fait, nous ne disons pas que nous vivons dans la pauvreté. Nous vivons une vie simple. Et je dirais pour nous, que nous n'acceptons pas de souffrir. Alors, nous, s'il s'agit de nous habiller, nous nous habillons simplement, mais d'une manière quand même présentable. S'il s'agit de manger, nous mangeons un peu bien, mais peut-être pas d'une manière exagérée. Une vie simple, voilà.
Et avec des ressources qui viennent du travail que vous exercez à côté de Libla.
Alors, tout ce que nous gagnons dans notre travail, ça vient dans notre caisse communautaire. Mais si vous me donnez aujourd'hui 1 000 dinars, c'est moi qui vais décider ce que je peux faire avec ça.
Nadia, en quelle année avez-vous fréquenté pour la première fois Libla?
Je pense dans les années 90, un peu comme ça. Mais l'âge, c'était à l'âge de 11 ans. À l'époque, on ne connaissait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire un Père Blanc. On connaît tous que c'était, on l'appelait Babassat. Ça veut dire des Pères Blancs, des prêtres. C'est ce qu'on connaissait, quoi. Donc voilà, on a appris comment respecter les autres, beaucoup de choses. Par exemple, pour la première fois où j'ai touché un ordinateur, c'était ici, où j'ai touché un clavier et tout. Il y a des livres que j'ai lus ici ou qui m'ont aidé dans mes études que je ne les ai pas trouvés ailleurs. Comme, je sais pas, Balzac, par exemple, comme Victor Hugo. Donc, ces gens-là, alors j'ai lu quelques romans ou bien leur poésie.
Et les ouvrages, je sais pas, d'Imam Khaldoun, par exemple, vous les trouvez où? Au collège ou ici?
Ici, plutôt. Parce qu'au collège, c'était limité à quelques poésies. Pour avoir une étude ou pour avoir la poésie complète ou des choses pareilles, c'était ici. En fait, c'était pour s'évader un peu de l'école et de pression faisée par nos parents et de venir ici et parler un peu avec les pères. C'était vraiment quoi ?
Un petit lieu de liberté.
Un peu, oui, voilà.
Et ici, tout se passait en arabe ou en français ? Dans les conversations, évidemment, que vous aviez avec les pères blancs.
Les deux, ou en arabe ou en français. Mais ils encourageaient plutôt de parler en français. Voilà, ils nous disent toujours que ça vous aider, voilà, un lieu pour pratiquer beaucoup plus le français, pour s'améliorer.
Et vous avez continué de la fréquenter jusqu'au lycée?
Jusqu'au bac. J'ai fait mes 4 ans d'études, et puis je reviens toujours pour saluer les pères et tout. Et puis un jour, c'était comme ça, un des pères, le directeur Patrick de la Bibliothèque des Jeunes, donc il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais après tes études et tout. Je lui ai dit, je suis en train de chercher un travail. Puis on a discuté un peu et c'était l'occasion qui m'a proposé de venir travailler en tant qu'aide bibliothécaire à la bibliothèque des jeunes.
Li ajli ki ya madinata sarau salli li ajli ki ya bahiyat al masakin ya zahrat al madain ya qudsu ya qudsu يا قدس يا مدينة الصرا صلي عيوننا إليك ترحر كل يوم ترحر كل يوم تدور في أروقة المعابد تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد يا ليلة الإسراء يا درب من مروا إلى السماء عيوننا إليك ترحل كل يوم وإنني أصلي.
Et alors,
ça dure longtemps, hein, donc je peux.
Tous les Arabes chantent ça.
Tous, que la connaissent par cœur. Najm Tenched Nadia ou Leila Al Kol.
De la Syrie.
De l'Irak à la Mauritanie, cette chanson sur Jérusalem, elle est archi connue. Et Mohamed. Donc avant l'incendie, il travaillait à la bibliothèque. C'est lui qui inscrivait les nouveaux lecteurs, etc., qui aidait pour le rangement des livres et tout. Et maintenant, pour ne pas le débaucher, on lui a dit, bah, écoute, tu vas t'occuper de la reliure. Il y a une jeune dame qui est venue pendant 15 jours de France volontaire pour former, vous étiez 3 ou 4, hein ?
Oui, 4.
4 pour former à la reliure. Bon, alors les autres ont disparu dans la nature, il reste... Mohamed qui continue et on va voir son petit atelier. Voilà.
Donc Mohamed, maintenant. Vous avez changé de métier, vous êtes passé directement au statut de relieur.
Oui, parce qu'au début, moi, je suis formation en génie mécanique, mais...
C'est la mécanique des livres.
Oui.
Voilà. Oh là là, alors lui, il est très brûlé.
Je vais démonter. Il est presque fini, mais il manque seulement de mettre des couvertures et tout ça.
Alors, ce sont quels types d'ouvrages que vous êtes en train de restaurer, là?
Bon, le texte lui-même peut être très ancien, mais ce sont des éditions, ça c'est du 19e, hein, c'est pas vieux.
D'accord.
Hein.
Donc,
ça fait partie du patrimoine arabe classique. On avait essayé d'avoir tout, tout le patrimoine classique dans les sciences humaines et la littérature contemporaine.
Comment étaient-ils acheminés ces ouvrages ici, à Libla?
Alors là, c'est vraiment l'aventure. On essayait, nous, d'être attentifs à ce qui sortait en librairie. Tous les 5 ans, j'allais au Moyen-Orient et je commandais ou j'achetais ou j'amenais avec moi facilement une centaine de bouquins. Pour compléter, je me déplaçais moi-même au Moyen-Orient pour que nous ayons le plus possible des collections complètes. Donc moi, j'étais assez fanatique de tout garder, ce qui concerne la Tunisie.
Donc toute la période du protectorat, vous l'avez?
On avait plein de choses, oui, oui. Oui, beaucoup. Et voilà ce qui fait qu'on a été complété par des tas de gens de Tunisie qui savent que ici ça sort pas. Et il y a un proverbe tunisien qui dit « Slef, clef, tu prêtes, c'est perdu ». Et quand ça rime, c'est vrai. Donc Mohamed peut le dire, hein, « Slef, clef, c'est comme ça ». Et puis on a fait le gros effort aussi de garder les livres censurés. Hein, du temps aussi bien de Bourguiba que de Ben Ali, il y avait beaucoup de livres censurés. Et comme on connaît tout le monde... Alors, ou bien on va voir l'éditeur dans son coin, il y a un petit truc, ou l'imprimeur carrément, comme je connais presque tous les imprimeurs intéressants, ou alors l'auteur, qui a toujours un exemplaire, alors tu nous le donnes, je le mets à la bibliothèque, et il est à la disposition des chercheurs.
Et les autorités ne vous ont jamais...
Non, bon, ils venaient de temps en temps, un policier, mais comme ils ne sont pas très malins, au lieu de demander des livres comme tout le monde, il lisait son journal dans son coin en regardant tout, bon... J'ai été invité, entre guillemets, l'une ou l'autre fois au ministère de l'Intérieur, mais...
Non, vous n'avez pas eu à vous justifier des...
Non, non, non.
Mais il savait l'existence dans ces bibliothèques de livres censurés.
Oui, parce que tout est... On est dans une maison de verre, hein. On n'a rien à cacher. Et on travaille pour la science, pour la culture, pour la littérature. Alors vous avez divisé politique, c'est votre problème, c'est pas le mien. Alors on a eu même après l'incendie, dès qu'un journaliste venait, il y avait un policier qui était là, on est contrôlé, mais... Moi, ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit.
Qu'est-ce qui vous protège ?
Dieu.
On fait un travail, Père Léon. Hein ? C'est un travail, là.
Ah oui, plein de travail. Ouais. Déménagement des livres.
comme vous voyez, d'étagères. Ouais, ouais. On essaie de tout faire dans cette bibliothèque-là. Hein.
Vous êtes Carléons depuis combien de temps ici à Libla?
2010, septembre 2010. Et puisqu'on avait besoin de moi, de quelqu'un pour un peu l'avenir de cette bibliothèque.
Alors vous êtes de quelle nationalité?
Du Burkina Faso.
Ce qui est original, c'est de constater que les nouveaux recrutements des Pères Blancs, c'est en Afrique que ça se passe.
Et oui, comme vous le savez, en Europe, on n'a presque plus de vocation. Ouais. Et 95% des jeunes qui sont en formation actuellement chez les Pères Blancs sont d'origine africaine. Et le reste, c'est plutôt de l'Amérique latine. Voilà, le Sud en général.
Ça va changer beaucoup les choses dans les années qui viennent?
À mon avis, oui. Ça a déjà commencé à changer parce que la majorité des Pères Blancs qui sont encore actifs en Afrique, nous appelons missionnaires d'Afrique, mais la majorité des Pères Blancs encore actifs ne sont pas nombreux. Et nous avons une moyenne d'âge qui avoisine les 70 ans.
Et vous avez quel âge, Père Léon?
Moi, j'ai 31 ans.
Et cette vocation, vous l'avez eue à quel âge?
Donc, vous savez, les Pères ne sont eux qui ont évangélisé le Burkina. Et alors, ils sont là depuis 1899. Ils sont un peu partout au Burkina. Et surtout que j'étais dans une école catholique. Donc, c'est là que j'ai rencontré le premier Père Blanc dans ma vie. Et là, j'avais 12 ans. Il m'a posé la question comme ça, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu deviendras grand? Je lui ai dit, moi, j'aimerais devenir comme toi. Donc, c'est-à-dire prêtre. Et donc, à travers lui, j'ai rencontré beaucoup d'autres pères blancs. J'ai vu qu'il parlait ma propre langue locale, le Moré, au Burkina Faso. Ça m'a beaucoup impressionné.
C'est le fait qu'il parle votre langue qui vous a...
Oui, ça, c'est un des éléments. Il y a aussi l'interculturalité chez les pères blancs. Vous savez, nous sommes originaires d'un peu partout dans le monde. Hein. Et puis, vous savez, le Burkina est un pays 50% musulman. Donc, j'ai vécu avec des musulmans toute ma vie. Mais j'ai voulu voir autre chose, un autre islam. C'est pour cela que je suis ici en Tunisie.
Olfa, vous êtes professeur d'anglais.
Oui.
Et vous avez, quand vous étiez collégienne, lycéenne, étudiante, pratiqué Libla.
Pour moi, c'est grâce à John McWilliam que je suis professeur d'anglais. Oui, bien sûr, il m'a tout donné. C'est lui qui m'a fait découvrir la langue. Et puis c'est lui, grâce à lui, que je suis vraiment, je pense, hein, je ne suis pas prétentieuse, mais je pense que je suis un très bon professeur. Donc c'est grâce à lui.
Vous êtes musulmane?
Oui, d'une confession musulmane. Je suis croyante et pratiquante, mais vraiment, ça m'a ajouté quelque chose. Donc, ce n'est pas vraiment en conflit contre ma religion. Donc, la tolérance est essentielle dans ma religion, et c'est ce qu'elle nous a fait comprendre ici, et c'est pour ça que je les aime, je les adore. Donc, pour moi, c'est essentiel.
Est-ce qu'au fond, vous avez découvert à Libla qu'il existait peu de différence entre la Bible et le Coran?
Non, il n'y a pas de différence, je pense. On a toujours discuté de ça. Pour nous, les grandes lignes, ils sont pareilles. On doit respecter les autres, on ne doit pas être violent, on ne doit pas tuer, on ne doit pas voler. Pour nous, il n'y a pas vraiment une grande différence. On prêche, toutes les religions prêchent la paix, prêchent l'amour, prêchent la tolérance, prêchent la solidarité et prêchent la compassion. Donc, je ne trouve pas vraiment une grande différence entre l'islam ou le christianisme. Et je n'ai jamais senti cette différence, moi.
Et qu'est-ce qui fait qu'au lycée public, vous n'arriviez pas à sentir cette communauté d'esprit, alors qu'ici, à l'Institut des Belles-Lettres Arabes, vous ressentiez autre chose? C'est précisément l'incarnation de ces valeurs qui était différente?
Non, mais je veux dire qu'ici, il y a vraiment le dialogue. On parle beaucoup. On sait écouter l'autre et on sait comprendre l'autre. On juge jamais l'autre. Mais à l'école, on ne peut pas discuter vraiment avec les profs ou tout ça. Lorsque j'ai un problème, je préfère parler avec M. Paco ou avec John Mack ou avec n'importe quel prêtre ici que de parler avec mes professeurs. Sincèrement, honnêtement, j'ai rien contre mes professeurs. J'ai toujours adoré l'école, j'ai toujours adoré le collège et le lycée, mais pour moi, si j'avais un problème, je préfère parler avec M. Paco. Pour moi, c'est vraiment, c'est un père... spirituel.
Alors, qui était ce père Paco qu'on n'a pas rencontré ici, puisqu'il n'est
plus ? Il était le directeur de la bibliothèque dans mon temps. Donc, il était pour moi un père, il était un ami et un confident. Donc, je peux dire tout ce que je veux. Donc, il m'écoute, il essaie de comprendre, même s'il n'en trouve pas la solution pour le problème. Mais au moins, je peux parler avec lui, franchement, honnêtement, sans dire de mensonge.
Comment les parents de vos générations, de votre génération, perçoivent la présence des pères blancs en Tunisie, et notamment à travers cette institution qu'est l'IBLA ?
Pour moi, pour l'IBLA, je parle de l'IBLA. Pour moi, l'IBLA, regardez autour de vous, ici, il n'y a rien. Il n'y a ni maison de culture, ni rien. Donc pour nous, l'IBLA, ici, dans ce quartier qui est un peu défavorisé, je pense que c'est une échappatoire. C'est un lieu pour les études, pour les rencontres, et nous avons fait pendant des années des activités pendant l'été. On aide les élèves défavorisés pour donner des cours gratuitement. Donc pour nous ici, c'est essentiel pour le quartier. Je pense que l'IBLA, pour moi, c'est très important, mais je pense que pour tous les gamins du quartier, je pense que vraiment, 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 c'est essentiel d'avoir une bibliothèque et surtout d'avoir IBLA. Pas n'importe quelle bibliothèque. Moi, j'adore l'IBLA et j'espère qu'elle reste ici. Hein.
Alors, vous êtes professeur d'anglais, vous êtes jeune,
ouais.
Mais vous venez ces deux dernières années de vivre finalement, par rapport au sujet que nous traitons, deux choses importantes, une révolution,
ouais.
Et en même temps un incendie dramatique ici qui a changé la face du savoir à Tunis, puisqu'en fait c'est un lieu consacré.
Oui.
Comment vous voyez les choses aujourd'hui ?
Pour la bibliothèque, je pense que peut-être le problème sera réglé, peut-être d'ici quelques années, peut-être. Et j'espère que le gouvernement puisse faire quelque chose, puisse accélérer les travaux ici. Mais pour la révolution, je suis fière d'avoir fait une révolution, de goûter un peu à la liberté d'expression et tout ça. Et pour voir la vie, peut-être, pour avoir une vie meilleure. Donc, c'est ça.
J'ai connu mon ami, le père Jean Fontaine, en octobre 1965.
Abdelatif Habib, ministre de l'Éducation nationale.
J'étais à ce moment-là, en première année, à la section d'arabe, à la faculté de lettres de Tunis. Le père Jean Fontaine était aussi en première année. Nous étions à ce moment-là très peu nombreux, 40 ou 50 étudiants en première année. Je commençais à fréquenter IBLA. À ce moment-là, c'était le début de l'indépendance et les étrangers en général et les peuples blancs en particulier existaient et vivaient en Tunisie. Et la Tunisie était vraiment multiculturelle et multireligieuse même.
Jalousiez-vous parfois l'indépendance de l'IBLA ? On a, oui, le sentiment quand même que c'est une institution qui faisait ce qu'elle voulait et qui continue, oui, d'ailleurs de faire ce qu'elle,
oui,
veut,
oui,
avec un environnement politique difficile parfois, des chaos,
oui,
et malgré tout, l'IBLA tient toujours.
Bien sûr, cet institut était toujours indépendant. Je me rappelle qu'au début des années 70, le père Fontaine a écrit un article dans Le Monde sur la littérature tunisienne, en langue arabe et en langue française. Et à ce moment-là, de quelques intellectuels, entre guillemets, ont attaqué le père Fontaine parce qu'il était, selon eux, sélectif. Et ces intellectuels gravitaient autour d'un ancien premier ministre qui était ministre de l'éducation ou de la santé à ce moment-là, le feu Mohamed Imzali. Mais le père Jean Fontaine a pu résister contre ces attaques qui étaient parfois féroces. C'était pour nous une leçon extraordinaire.
Alors en quoi justement le ministre de l'Éducation que vous êtes a changé les programmes d'histoire de la Tunisie en fonction de ce qui s'est fabriqué à Libla ?
Maintenant, je suis ministre depuis 5 mois. Donc je gère une situation un peu difficile, mais je pense beaucoup à l'histoire de la Tunisie, qu'il faut mettre entre les mains de nos élèves et de nos étudiants une histoire moderne pour qu'ils soient au courant des grands événements que la Tunisie a vécu depuis son indépendance.
Libla correspondait à une époque où il y avait une petite élite qui était disponible pour être accompagné intellectuellement à travers des livres, à travers une revue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a un appétit intellectuel de la part de la jeunesse aujourd'hui ? Comment jugez-vous cette évolution socio-démographique et cette évolution culturelle ?
Bien sûr, il y a des difficultés dans le domaine de l'éducation depuis que Ben Ali a essayé et il a réussi dans une grande mesure à démanteler l'université.
Abdelmajid Cherfi, professeur de civilisation arabo-musulmane.
Et l'université est dépourvue de moyens humains et matériels. Je sais qu'il y a 2 ou 3 ans, la moitié de ceux qui enseignaient à l'université n'appartenaient à aucun grade des professeurs de l'enseignement supérieur. Et ça a été fait de façon délibérée, hein, parce que l'université représentait quand même la conscience de la nation. C'est pour cela qu'elle a fait l'objet d'une attaque systématique de la part du régime de Ben Ali. Aujourd'hui, la jeunesse tunisienne, comme toutes les jeunesses du monde, est branchée sur Internet et n'a pas cette vocation de la lecture que nous avions les gens de notre génération. Donc, on peut s'en offusquer, on peut considérer que c'est négatif, mais il y a une autre culture, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a une autre culture qui est en train de naître sous nos yeux.
Comment les intellectuels aujourd'hui, ici, que vous êtes, qui se greffent à cette revue, mais pas seulement à cette revue, comment ils s'organisent pour penser aujourd'hui la Tunisie contemporaine. Je me dis quand même, aujourd'hui, on a envie d'avoir un numéro spécial de la revue de Libla, consacré justement à ces questions qui ne sont plus tabous et qu'on ne voit pas traiter intellectuellement, quelque part, puisque les journaux ne le traitent pas intellectuellement.
Oui, ce que vous évoquez,
Bendana,
je pense que le système politique...
Ancienne directrice de la revue Ibla.
Je n'ai pas vécu celui de... En tant qu'adulte, si vous voulez, celui de Bourguiba, mais j'ai vécu en tant qu'adulte, celui de Ben Ali, était un système qui ostracisait beaucoup les intellectuels et essayait de les confiner un peu dans des niches très limitées, comme l'université, etc. C'est-à-dire que, comme il n'y avait pas de liberté d'expression, comme on ne délivrait pas d'autorisation non plus pour des revues, et ça a beaucoup limité, si vous voulez, les voies d'expression de ces intellectuels. Donc on n'avait pas le droit. Moi, j'ai dirigé pendant 5 ans la revue sans que mon nom soit accepté comme directrice de la revue, parce que le ministère de l'Intérieur ne voulait pas délivrer d'autorisation à quelqu'un d'autre que Jean Fontaine. Et je pense que cet exemple qui semble anecdotique est significatif de cette position politique vis-à-vis des intellectuels. Il ne fallait pas qu'ils apparaissent. Il ne fallait pas qu'ils se réunissent. Il ne fallait pas qu'ils écrivent. Il ne fallait pas qu'ils s'expriment collectivement dans des revues, dans des associations, etc. Moi, je vois l'avenir. Enfin, moi, je me vois maintenant, après le 14 janvier 2011, comme dans un travail de soudure. Vous savez, comme entre une récolte et une autre, quand il y a un vide et qu'il faut préparer l'avenir. Mais je pense que les espaces maintenant sont ouverts et que parmi les possibles aujourd'hui, c'est précisément de construire cet espace intermédiaire, s'ouvrir aux nouvelles générations.
Oui, mais si vous voulez, ils utilisent nous allons... Internet, ils utilisent Facebook, ils utilisent d'autres supports.
Mais ça ne fait rien, nous, on ne va pas se renier, nous, je veux dire...
Non, mais comment les attirer sur un autre type de débat, peut-être plus humaniste, peut-être plus fraternel, peut-être plus physique.
Ben, nous commençons à y penser, parce que nous voulons, avec l'ouverture des locaux, peut-être essayer de lancer des manifestations autour de la revue, et nous allons évoluer avec ça.
Dernière question, la spiritualité a de l'avenir ?
C'est mon avenir. Si je n'avais pas cette base que Jésus me donne, Jésus vivant aujourd'hui, j'aurais fait ma valise depuis longtemps. Vivre en tant que disciple de Jésus dans un pays 100% musulman, c'est un carême perpétuel. Peut-être la formule est un peu exagérée, mais c'est pas facile. Hein. Et s'il n'y avait pas ce... Même pour la résilience après l'incendie, bon, c'est la foi qui me permet de tenir. Parce que normalement, vont imaginer, quand j'ai quitté la bibliothèque, j'avais multiplié le nombre de livres par 6. Bon, les trois quarts de ce que j'ai fait a disparu dans l'incendie. Moi, je ne suis pas comme le type de Rudyard Kipling, là, hein, mon fils, si tu fais ceci, cela. Et donc, en m'accrochant à Jésus vivant aujourd'hui, en moi, et dans les Tunisiens qui venaient nous aider, c'est ça qui me permet de tenir.
Merci au Père Fontaine, Léonce, John, André, David, également à Abdelmajid Cherfi, Abdelatif Habib, Kmar Ben Dana, Nadia Slassi, Olfa Boussiga, Sami Bergawi, Leila Snoussi, Samia Kamarti, le relieur Mohamed. Merci enfin à l'équipe de l'Institut français de Tunis. Prise de son Yvan Turc, mixage Célia Dufour, un documentaire de Jean-Michel Gian réalisé par Charles Trou.
Voilà, vous vous êtes mis depuis plus d'une heure, les sons de cet Ibla et de Tunis dans les oreilles. Si vous voulez vous mettre dans le paysage de cet Ibla, allez sur le site de France Culture, il y a un diaporama composé par Antoine Lachan et Charles Trou. Demain, nous nous attacherons dans l'émission d'archives du mercredi à l'histoire des traductions du Coran.